Le Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions de l'UQAM a invité à Montréal la semaine dernière la germaniste et essayiste française d'origine arménienne Janine Altounia. Janine Altounia est co-traductrice de Freud depuis 1970 et toute la semaine à Montréal, elle a présenté des conférences axées sur le thème de la transmission de l'héritage traumatique, un thème qu'elle développe à travers ses écrits personnels depuis plus de 30 ans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est née de parents qui ont survécu au génocide arménien. À travers une psychanalyse, Janine Altounia a pris la mesure du trauma qui l'habitait et que lui avaient transmis ses parents, et elle s'est mise à écrire sur le sujet à partir de 1975 dans la revue Les Temps modernes, la revue philosophique fondée par Jean-Paul Sartre. Depuis, elle a signé 3 essais sur le sujet. Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, un génocide au désert de l'inconscient, la survivance, traduire le trauma collectif et l'intraduisible deuil, mémoire, transmission. Vous devinez que c'est un sujet qui me touche, étant moi-même arménien d'origine. Mes parents, qui ont l'âge de Mme Altounia, sont eux aussi des descendants de survivants du génocide perpétré par les Turcs ottomans à partir de 1915. Mon grand-père paternel a fui la Turquie en compagnie d'une bonne partie de sa famille en direction de la France. Il a atterri à Nice, tandis que du côté de ma mère, eh bien son père, lui, et toute sa famille ont vécu l'exil forcé vers le désert de Syrie. C'était la mort pour les plus vieux de la famille. Pour les enfants qui ont survécu, ben, le triage à Alep, l'orphelinat en Grèce et de fil en aiguille. Lui aussi s'est retrouvé à Nice et c'est là qu'ils ont pris tous les deux épouse et mes parents sont nés et se sont rencontrés donc dans le quartier Sainte-Madeleine à Nice. Et voilà, près d'un demi-siècle plus tard, je me retrouve au studio 18 de la Maison de Radio-Canada pour vous présenter cet entretien que j'ai réalisé la semaine dernière avec Janine Altounia. Janine Altounia, bonsoir.
Oui.
J'ai raconté un peu mon histoire. Quelle est la vôtre?
Mes parents sont des survivants du génocide arrivés en France dans les années 20. Moi, je suis née à Paris et j'ai vécu pendant toute mon enfance entre deux mondes. Le monde de la maison, que j'ai toujours ressenti comme relativement étouffant et empreint d'un sentiment de malheur auquel on avait échappé. Et de l'autre côté, il y avait l'école, à l'époque, qui était l'école de Jules Ferry, l'école de la République, que j'ai beaucoup investie, où je trouvais qu'il y avait un certain épanouissement qui m'était, d'une certaine façon, interdit à la maison. Et puis, au fur et à mesure de mon développement, je n'ai pas du tout fait ce qu'on appelle un retour en arrière, un retour vers les origines. Je me suis en fait toujours ressentie arménienne, mais il y avait toujours en moi cette séparation entre le monde de la famille et le monde des études, le monde des amis, le monde des camarades. Jusqu'au jour où, à la faveur d'un travail analytique, j'ai éprouvé le besoin de dire quelque chose de ce sentiment de malheur qui m'avait été transmis, pour dire les choses rapidement. Et au fur et à mesure, j'ai comme ça été amenée à écrire des choses que j'ai réunies dans ces 3 livres sur la transmission. Mmh. Donc,
des livres qui portent, vous venez de le dire, sur la transmission, plus spécifiquement la transmission de l'héritage traumatique. Qu'est-ce qu'un héritage traumatique?
Eh bien, si vous voulez, un héritage traumatique, je dirais que c'est le sentiment qu'on porte en soi quelque chose qui vient du monde familial et dont on ne se désolidarise pas parce que ça fait partie de vous, qui est le sentiment d'être à part des autres, à part de ceux qu'on rencontre à l'école, par exemple. Et ce qui caractériserait cette différence, c'est la sensation qu'on vient d'échapper, enfin c'est un monde de la survie, c'est-à-dire qu'on vient d'échapper à quelque chose et il faut se battre pour trouver sa place dans la société d'accueil, pour gagner sa vie, pour... L'existence ne va pas de soi, et c'est ça qui est transmis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'où viennent les parents, dont ils parlent ou ils ne parlent pas, ça dépend des familles, et c'est quelque chose d'effrayant, qui n'a rien à voir avec ce qu'on côtoie dans la vie quotidienne, qu'on ne sait pas placer quelque part, qui est hors espace... Et malgré tout, avec quoi il faut faire avec, quoi. Il faut faire avec.
Mmh. Vous avez qualifié ce monde familial au tout début de l'entrevue étouffant. Je devine que chez vous, c'est le silence qui était étouffant.
Non, ce qui était étouffant, c'est que c'était l'accaparement, c'est-à-dire que les familles de survivants, souvent, sont des familles où les liens familiaux sont très sur le mode de l'agglutination, parce que les persécutés ont l'habitude de se souder les uns avec les autres, et c'est cette structure relationnelle qui continue, et donc il faut rester en famille, il faut constamment œuvrer à la survie. C'est étouffant parce qu'il n'y a pas de place pour ce qu'on appelle dans le monde normal, entre guillemets, l'épanouissement de l'enfant, l'attention portée à l'enfant, des choses comme ça, ça n'existe pas. Donc ce qui est étouffant, c'est ça.
Mais est-ce qu'on en parlait chez vous du...
On en parlait, oui.
De ce traumatisme.
Alors, si vous voulez... Mon père parlait, mais il ne m'en parlait pas à moi. Il en parlait à ses amis, le soir, sans doute à des veillées. J'ai des souvenirs comme ça, où il racontait ce qu'il avait vécu. Mais mon père n'était pas quelqu'un qui avait un discours de plainte. Il racontait ce qu'il avait vécu. Je l'écoutais, évidemment, j'étais une petite fille... qui écoutait sans doute son père avec énormément de plaisir, un petit peu comme s'il racontait des histoires invraisemblables qui se sont déroulées je ne sais où. Et je crois que je l'écoutais avec plaisir parce que dans le fond, je devais me dire, dans le fond, il est là, tout va très bien. Je n'ai pas perçu quand j'étais enfant, par les récits de mon père adressés à ses amis, le traumatique. Le traumatique m'a été transmis plutôt par l'atmosphère générale, où vraiment, dans la famille, c'était pas comme à l'extérieur, et c'est surtout, je dirais, par les femmes. La mère, la grand-mère, qui était beaucoup plus dans la plainte, on a tout perdu. Et le traumatique aussi, si vous voulez, ça vient du fait que tout enfant a envie de s'opposer à ses parents, a envie de faire des caprices, ou je ne sais pas, mais c'est pas le cas. On peut pas se permettre la moindre agressivité vis-à-vis de personnes dont on sent bien que tout le mal qu'elles ont a existé, à faire vivre la famille. Donc,
est-ce que vous appelez la survivance ?
C'est tout à fait ça, c'est la survivance. C'est-à-dire qu'on est dans un univers de survivants, et on sent une sorte d'oppression.
Mais dans beaucoup de ces... En tout cas, j'y vais encore d'une affirmation, mais ce que moi, j'ai pu observer autour de moi, dans les univers ou certains de ces univers que j'ai pu côtoyer, c'est que c'est une transmission qui est silencieuse. C'est-à-dire que les survivants, de façon générale, ne parlent pas, ou à tout le moins parlent très peu de leur histoire.
Oui.
Pourquoi ce silence?
Si vous voulez, moi, ça n'a pas été le cas dans ma famille, mais malgré tout, vous n'avez pas tort, même si je parle de ma famille, parce que on ne m'en parlait pas à moi, et c'est normal. Alors, je réponds maintenant à votre question. Je pense, si vous voulez, que... Qu'est-ce qu'on peut dire à des enfants quand on est parent et quand on a connu des scènes épouvantables qu'on peut lire? Moi, j'ai lu ces choses-là. Après, dans mon enfance, je voyais surtout cette atmosphère de plainte et de perte, mais je ne connaissais pas les horreurs que j'ai découvertes en lisant après. On ne peut rien dire de ces choses. Ça ne fait pas partie d'une position de parent. Il n'y a rien à dire, et puis en le disant, on se remémore ces scènes, et c'est très très déstabilisant. On risque de sombrer dans une profonde inaptitude à vivre, alors qu'il faut combattre pour rester en vie, pour gagner sa vie.
Donc ce n'est pas nécessairement un déni.
Ah non, C'est pas du tout un déni, moi. Je trouve que c'est pas un déni. C'est vrai qu'il y a des familles très rares, on m'en a parlé, où ils disaient que ben, nous, on est français, ou nous, on est, je sais pas. J'ai une amie comme ça qui me dit que ses parents disaient ben, nous, on est normands, c'est tout, quoi, basta. Mais.
Alors non. Que c'était des Arméniens.
Alors que c'était des Arméniens, oui. Et même des Arméniens fort cultivés. Ça existe, mais c'est rare. Le restant du temps, non. C'est pas du déni. C'est que c'est inabordable. On ne peut rien faire de ça. Je pense d'ailleurs que dans les théorisations que j'ai essayé de faire, les enfants, enfin les descendants, peuvent éventuellement élaborer ces choses, essayer de les traduire dans leur... voilà. Mais je pense que les survivants eux-mêmes, ils ne peuvent que parler entre eux de ce qu'ils ont vécu, entre eux.
Cette traduction dont vous parlez, c'est la façon, selon vous, de s'affranchir de ce bagage traumatique.
Oui.
Elle est nécessaire, cette traduction. Oui. Elle s'opère de quelle façon?
Alors, dans le fond, quand vous dites s'affranchir, c'est pas faux. Alors, si vous voulez, moi, je pense que pour sortir du trauma, enfin, pour vivre normalement avec, si je puis dire, parce qu'on ne le quitte pas, il est toujours présent en vous, mais ça, pour ouvrir quand même vers le vivant, il faut le traduire dans la culture et la langue du pays d'accueil. C'est-à-dire le déplacer dans un autre contexte, ce qui demande évidemment du temps, parce que quand je dis le traduire dans la langue du pays d'accueil, c'est pas seulement le traduire en français quand on est arménien, mais le traduire avec les instruments de pensée d'une culture qu'on va acquérir au bout d'un certain nombre d'années en faisant des études, etc. Et alors à ce moment-là, lorsqu'on essaye d'exprimer ces choses-là dans cette autre langue, et nécessairement on rencontre à ce moment-là des interlocuteurs, des gens qui entendent ce dont on parle et qui l'entendent de l'autre bord, c'est-à-dire, j'allais dire, du bord de ce que j'appelle les non-exterminables. Alors à ce moment-là, le fait de pouvoir être entendu et éventuellement d'entendre dans leurs propres histoires d'autres histoires analogues, parce que dans mes ouvrages, je ne parle pas seulement de l'héritage arménien, il m'arrive de parler des survivants de la Shoah, comme par exemple Jean Améry, mais j'ai parlé aussi du Rwanda, je parle aussi des gens qui sont des descendants d'une détresse et d'une pauvreté familiale sur plusieurs générations, comme par exemple le livre de Camus, Le Premier Homme. Donc, si vous voulez, le fait de dire ces choses, de pouvoir les écrire et de rencontrer des gens qui ont une écoute à ça, libère énormément parce que, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, l'enfant de survivant n'est pas entendu. On n'a pas le temps de s'occuper de lui. On le nourrit, on s'arrange pour qu'il fasse des études, il a un toit, on lui assure la sécurité, c'est-à-dire qu'on fait face à ses besoins, mais il n'est pas question de l'initier à la poésie du monde. Et donc, non,
c'est un contexte qui est très lucide, il faut le dire.
Oui, oui, mais d'ailleurs, à ce moment-là, je pourrais, sur un autre versant, dire que à partir du moment où on fait un certain travail et que à partir de l'extérieur on retrouve une perception de l'univers interne de sa famille, on le découvre comme recélant des valeurs extraordinaires, des valeurs de persévérance, de travail, de courage et de lucidité, car malgré tout, si vous voulez, lorsqu'on est comme ça écartelé entre deux mondes, il est certain que ceux qui connaissent le vrai, c'est les parents. C'est eux qui savent que dans ce monde, on extermine et il suffit actuellement d'ouvrir la télé pour voir que les exterminations prolifèrent. Donc, ils sont eux détenteurs de la vérité et dehors, les non-exterminables, souvent, sauf ceux avec qui, justement, on peut dialoguer, qui sont sensibles à ces choses-là, bah, les autres vivent tranquillement dans une ignorance difficile à imaginer.
Et pourquoi tout ça doit se faire dans la langue d'adoption?
Ah ben parce que si vous voulez, la langue de départ, bon, concrètement, si vous voulez, dans ma biographie personnelle, moi, je sais mal l'arménien, c'est-à-dire que j'ai un usage de l'arménien pour les besoins quotidiens, dans la mesure où mes propres parents n'ont pas pu aller à l'école du fait du génocide. Et ils avaient un arménien rudimentaire et ils étaient turcophones, comme beaucoup d'arméniens dans certaines régions de l'Empire ottoman. Bon, déjà, donc, je n'avais pas les moyens linguistiques, mais on peut me dire, tu aurais pu les acquérir. Bon.
Oui, ce que font beaucoup de jeunes Arméniens, je pense à des gens qui ont un parcours à peu près similaire au mien, qui vont finalement, dans la trentaine, apprendre la langue, même dans certains cas, retrouver leur nom d'origine qui a été amputé en partie, qui vont finir par aller en Arménie, qui vont embrasser cette culture de toutes les façons possibles. Oui. Ils font fausse route, selon vous.
Non, ils ne font pas fausse route, mais ce n'est pas ça mon projet. C'est-à-dire que je leur souhaite du bien. Moi, ce que j'ai voulu, c'est dire quelque chose. Dire ce que j'avais vécu, dire ce que eux n'ont pas pu dire, si vous voulez. C'est ça mon projet. Et c'est vrai que la suite de mon existence, bon, après je suis devenue prof d'allemand, je suis devenue donc essayiste, traductrice de Freud.
Oui, ce qui est assez amusant. Vous êtes traductrice d'ailleurs.
Je suis traductrice.
On parle de traduction.
Voilà, oui, en fait je traduis sur deux modes, si vous voulez. D'une part, ce que les survivants n'ont pas pu dire, ne peuvent pas dire, et d'autre part, d'une langue à l'autre. Mais enfin, c'est pas n'importe quelle langue, c'est la langue de la psychanalyse. D'une certaine façon, et également la langue d'un père, du père de la psychanalyse. Bon, mais si vous voulez, c'est un argument qui m'est souvent opposé par certaines personnes qui s'étonnent que je ne mette pas le poids sur réintégrer la culture de départ, apprendre la langue. Oui, de toute façon, alors j'en viens quand même à votre première question. Ce dont je parle, moi, l'efficacité de cette affaire, c'est de le dire... Pas aux Arméniens, les Arméniens le savent, ça. C'est de le dire à l'étranger, justement, donc dans la langue de l'autre.
Mais ils ne le savent pas tous.
Les Arméniens ?
Ben, c'est-à-dire que...
Comment ils ne savent pas tous ?
Non, mais ceux qui ont grandi dans un contexte où on a occulté une partie de cette histoire, une partie de cette culture. Bon, moi, j'en suis un bon exemple. Je ne suis pas un Arménien qui sait tout de l'Arménie.
Ah oui, non, mais attendez, je ne dis pas qu'il sait tout de l'Arménie. Je parle du savoir concernant la destruction d'une culture, des êtres humains, l'effondrement. Mais au niveau de la culture de l'Arménie, vous allez faire partie de ces gens qui vont se cultiver en arménien, apprendre l'arménien, etc.
Est-ce que cette traduction...
Et c'est bien. Je vous souhaite bon courage.
Ah oui, j'ai à peine commencé. mais pour revenir à cette traduction, à la traduction de ce bagage finalement traumatique, est-ce qu'on peut le voir comme une forme de trahison de la survivance?
Ah non, pas du tout, au contraire. C'est au contraire une fidélité, parce que pour pouvoir le dire, vous savez, les survivants disent toujours, ou les gens qui meurent même dans ces circonstances disent, il faut le dire, il faut le raconter. C'est une injonction qui revient sans arrêt dans leur bouche. Il faut dire ces choses-là. Or, il faut le dire à l'autre. Et ce n'est pas du tout une trahison, parce que pour le dire à l'autre, il faut acquérir la langue, disons, la langue des Occidentaux. C'est évident. Mais je ne dis pas la langue seulement linguistique, sur le plan linguistique. Il faut acquérir les moyens de penser et les moyens politiques également. Il faut accéder à une pratique des institutions des pays d'accueil. Mais je pense que cette problématique est plus spécifique de la France. Je crois que les Arméniens de France ont un rapport particulier concernant également le débat politique. Et j'ai récemment, en discutant avec cette personne de la table ronde, comment s'appelle-t-elle ? C'était Madame Amalian, Harpie Amalian, qui a voyagé, qui a été en France, qui disait « Oui, en France c'est différent parce que les Arméniens de France se pensent français et prétendent et demandent, affirment leurs droits en tant que citoyens français. » Et ça, c'est très, très juste. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Il a fallu du temps. Mais les Arméniens que je côtoie, moi, sont des gens qui cherchent à dire leur histoire et à s'affirmer citoyens en tant que descendants des survivants du génocide. Donc, c'est à l'autre qu'il faut le dire pour se trouver une place au sein des autres en tant que qui on est. Et pas en effaçant qui... Alors par ailleurs, pour se dire en tant que qui on est, et puis c'est tout, je veux dire qu'on ne va pas se ruiner son affaire dans une espèce de plainte, pas du tout, non, mais je... Voilà.
En fait, le qui on est, vous y avez travaillé beaucoup, puisque
oui, c'est surtout ça,
vous avez... Vous avez traduit tout ça, évidemment, par l'écrit, mais dans un premier temps, vous l'êtes traduit pour vous-même, d'une certaine façon, à travers une analyse, à travers une psychanalyse.
Oui, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, au départ, on baigne dans tout ça. On baigne dans tout ça, dans cette espèce d'atmosphère dont je vous parle, qui est à la fois chaleureuse mais étouffante. Et le travail analytique permet de se distancer de ça et d'essayer de nommer ces choses. Par exemple, quand je vous dis « ils sont persévérants, ils sont travailleurs, ils ont l'art de la survie, ils savent ce que c'est que la vie », finalement, ils aiment la vie plus que quiconque, puisqu'ils savent l'aménager. Ce sont des formes d'expression que je ne peux élaborer qu'avec, en prenant une certaine distance, et la distance aussi d'une autre langue.
Et la psychanalyse vous a permis cette double distance, disons.
C'est ce que je dirais, oui, oui.
Jeannine Altounian, merci beaucoup.